8h19 à Paris, pourra-t-il aller plus loin dans les réformes ou restera-t-il les mains liées par le parti à qui il a confisqué le gouvernement? Une question qui tourne sans doute dans la tête du Premier ministre Donald Tusk. En Pologne, à 2 jours désormais du premier tour de la présidentielle, de retour au pouvoir depuis la fin 2023, il a fait revenir son pays dans le giron européen, il a engagé des réformes pour revenir sur une partie des décisions du PiS, le parti Droit et Justice qui a tenu le pays pendant 8 ans, mais le parti nationaliste garde toujours la présidence et avec elle un droit de veto que le chef de l'État Andrzej Duda ne s'est pas privé d'utiliser pour préserver son héritage. Est-ce le changement ou le statu quo que les Polonais choisiront? On en parle ce matin avec notre grand invité international. Bonjour Pierre Buller.
Bonjour et merci de votre accueil.
Merci à vous d'être avec nous en ligne de Pologne où vous vous trouvez pour suivre ce scrutin. Vous qui connaissez bien le pays, vous avez été l'ambassadeur de France sur place entre 2012 et 2016. Vous signez aussi l'ouvrage Pologne, histoire d'une ambition, où vous parlez d'un moment polonais. On peut donc dire aujourd'hui que même si le président n'a que peu de pouvoir en Pologne, cette présidentielle va peser très lourd dans l'avenir du pays. Est-ce que l'importance de ce scrutin se ressent aujourd'hui dans l'atmosphère du pays autour de vous ?
Ah oui, absolument. Une ombre plane sur ce moment polonais. L'enjeu est absolument considérable pour Donald Tusk et sa coalition. Je dirais que c'est un enjeu presque de même niveau que celui auquel on a fait face la Roumanie aujourd'hui, ou en tout cas dimanche. Et donc au premier tour, le candidat de la partie de la coalition de Tusk, qui s'appelle Rafael Trzaskowski, maire de Varsovie, est favori au premier tour. Il a des sondages lui donnent entre 31 et 33% contre 25-26% à son principal opposant, qui s'appelle Nawrocki. Mais évidemment, la présidentielle se joue au deuxième tour, qui est beaucoup plus ouvert, avec un risque considérable d'un résultat très serré. Hein. Il y a un troisième larron, si je puis dire, dans la course, qui est encore plus, qui représente un parti encore plus radical que Droit et Justice, qui s'appelle Mensen, qui est très prisé des jeunes, qui se sert beaucoup des réseaux sociaux et qui affiche autour de 11-12%, mais bon, précisément au deuxième tour que se jouera l'élection.
On va en reparler de cette affiche, mais sur l'enjeu, on voit que Donald Tusk joue aujourd'hui en fait sa capacité à détricoter une partie des mesures prises par le PiS lors de ses années au pouvoir, ce qu'il ne peut pas faire pour l'instant. Quels sont les dossiers, les réformes sur lesquelles il ne peut pas avancer en cas de cohabitation?
Alors, une des principales réformes auxquelles il s'était attaqué, qu'il avait promis, disons, de mettre en œuvre, était la liberté de l'IVG. Ça n'a absolument pas progressé. Donc, il y a un certain ressentiment dans son électorat à Tusk, mais il y a au fond toutes les lois qui ne conviennent pas au président, ils sont renvoyés vers des instances judiciaires qui sont encore aux mains de Droit et Justice. Il a également peu de pouvoir, vous le disiez, mais il a un pouvoir de nomination également, quelques ordres, pouvoirs de nuisance de différentes natures, et ça paralyse le gouvernement, le travail du gouvernement.
Pourra-t-il tenir Donald Tusk si son candidat, si son camp ne remporte pas cette présidentielle?
Ah, je pense que la situation sera extrêmement difficile et bon, de ce que j'entends dire autour de moi, la chambre basse devra être dissoute et de nouvelles élections devront avoir lieu qui remettront peut-être en selle l'extrême droite et donc c'est évidemment, c'est pour ça que cet enjeu est aussi colossal. Est-ce que au fond le président sera gouvernement et avec un président donc du même camp sera en mesure de rétablir l'état de droit ou est-ce qu'on va vers une confrontation beaucoup plus grave et plus vigoureuse qui risquerait de ramener le PiS au pouvoir.
Vous l'avez donc dit, il y a le candidat du camp Tusk qui est en tête pour le premier tour, face au candidat du PiS, et face à ce troisième homme, Sławomir Mensen, candidat d'extrême droite, crédité de 14% des intentions de voix. Qu'est-ce que ça dit du paysage politique et idéologique de la Pologne? Un virage à l'extrême droite qui se confirme, une fatigue du duel permanent entre les deux principaux partis, un peu des deux?
Oui, effectivement, un virage, disons, vers des thématiques de droite. Et on voit d'ailleurs la majeure, enfin, tous qui sont candidats, emprunter un peu cette voie et faire des concessions dans ce sens. Notamment, il faut se souvenir que Donald Tusk a obtenu de la Commission européenne une exemption pour l'application en Pologne du pacte asile et migration de l'Union européenne. Une des thématiques très clivantes de cette campagne tourne autour de l'immigration et notamment autour de du traitement des réfugiés ukrainiens qui avaient été très bien accueillis il y a deux, trois ans et qui aujourd'hui sont devenus, enfin, le sort des Ukrainiens, les facilités qu'ils peuvent avoir, les prestations sociales dont ils peuvent bénéficier, sont une thématique ouverte de la campagne avec cette extrême droite quand même xénophobe, celle qu'incarne Bentsen, anti-ukrainien, antisémite, xénophobe, et bon, il y a en tout cas une partie de la population polonaise, de l'électorat polonais qui le suit sur ses traces. Et donc, je dirais que il y a à la fois ce choix de la majorité de ne pas laisser le terrain politiquement libre à l'extrême droite. Il y a aussi ce qu'on sent, une certaine lassitude vis-à-vis de ce duopole entre le droit et justice d'une part, coalition civique de l'autre, et je dirais, on sent des indices d'un certain dégagisme aussi. Alors, comment ça se manifestera dans cette élection, ça reste à voir, mais c'est l'ambiance que j'ai ressentie en parlant aux uns et aux autres ici à Varsovie, c'est qu'il y a cette, ouais, précisément, notamment dans la jeune génération, on ne veut plus avoir les mêmes qui se relaient.
Qui reviennent en permanence. Ouais. Ce que Donald Tusk a pu faire depuis qu'il est Premier ministre, c'est mettre fin au conflit entre la Pologne et les instances de l'Union européenne. Vous écrivez dans votre livre, ouais, qu'il a fait revenir la Pologne dans le périmètre de confiance de l'ensemble européen. Vous dites aussi que la Pologne est aujourd'hui la clé de voûte de la sécurité du continent. On le voit notamment avec la montée en puissance de la défense polonaise dans le contexte de la guerre en Ukraine. Cette élection présidentielle en Pologne aura, quoi qu'il arrive, des conséquences pour toute l'Europe ?
Oui, certainement. Parce que là, si le PiS revient au pouvoir, pour le PiS, ils ont mis dans le passé, pendant qu'ils étaient aux affaires, tous leurs œufs dans le panier américain. Et ce qui n'est pas ce que ne fait pas de Donald Tusk et sa coalition qui considère qu'il faut faire feu de tout bois et trouver des alliés dans l'Union européenne, en Europe, en dehors de l'Union européenne, les pays baltiques, le Royaume-Uni, tout, la France avec laquelle a été signé récemment ce traité, l'Allemagne, tous ces partenaires avec lesquels le PiS s'était fâché en quelque sorte entre Bruxelles, Berlin, la relation n'était pas non plus très bonne avec la France, tout ce qui a complètement rétabli ça, et je crois qu'il la clé de voûte de la sécurité européenne, elle est au fond,
merci,
déterminée par la situation générale dans l'Est de l'Europe et la menace existentielle de la Russie.
Et donc notamment par l'issue de cette présidentielle polonaise. Merci Pierre Buhler, ancien ambassadeur de France en Pologne, professeur à Sciences Po. Je rappelle aussi le titre de votre livre publié récemment, Pologne, histoire d'une ambition. Bonne journée.